La catastrophe de Tchernobyl, pareille à un cauchemar, cette tragédie a réveillé des millions de gens de leur léthargie et leur a donné un petit avant-goût des effets dévastateurs d'une éventuelle guerre nucléaire. Que penser du phénomène Tchernobyl? S'agit-il d'un simple accident isolé qu'il vaut mieux oublier? Ou est-ce un événement, pour ainsi dire, prophétique, un signe précurseur du jugement de Dieu à venir, donc un véritable présage apocalyptique? Quelle que soit votre façon d'interpréter l'incident de Tchernobyl, une chose est certaine. Il a déclenché une nouvelle vague de peur, de panique et d'angoisse chez des millions de nos contemporains sur tous les continents. Cette réaction s'accorde parfaitement avec les paroles prophétiques de Jésus. Il nous a avertis que les jours viendront où tout un monde fera faillite. Parmi les signes annonciateurs de cette banqueroute finale se trouve celui-ci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre l'angoisse s'emparera des nations troublées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de frayeur dans l'attente des maux qui viendront sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Dans le même discours concernant la fin des temps, le Seigneur a également dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Les gens qui refusent de croire que notre siècle serait une époque particulière, susceptible de voir l'accomplissement des prophéties apocalyptiques, argumentent qu'il y a eu toujours des guerres. Ils ont raison, hélas. Mais actuellement, pour la première fois dans l'histoire humaine, la guerre totale menace un monde surpuissant et diaboliquement divisé. En conséquence, la crainte et la terreur s'installent. La vieille prophétie de Jérémie s'actualise et ses termes sont, consciemment ou inconsciemment, vécus par des millions et des millions de nos contemporains. « Je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. » Le président d'un grand pays déclarait, après avoir visité 14 nations, « Les peuples se craignent l'un l'autre, les citoyens craignent leur gouvernement et les gouvernements craignent les citoyens. Partout rampe la peur d'une guerre imminente, la peur du massacre en masse des populations civiles. La crainte règne partout. » Fin de citation. Albert Camus, cet agnostique, lui donne raison quand, cherchant un raccourci pour décrire notre temps, il l'appelle le siècle de la peur. Accompagnant la peur ou la suivant de près, se présentent l'angoisse, le stress, les dépressions, la morosité qui tourmentent des millions de gens et les privent d'une existence paisible, harmonieuse et sereine. Cette peur qui est si caractéristique pour notre société n'est pas sans fondement. Elle est prémonitoire. Jésus ne cache pas l'horrible vérité, la vérité crue. Il faut que ces choses, c'est-à-dire les choses qui font peur, arrivent, dit-il. Cependant, immédiatement après avoir fait cette déclaration, Jésus se fait rassurant pour ceux qui le suivent en ajoutant « Gardez-vous d'être troublés ». Mais comment faire, direz-vous? Tout le monde est troublé. Les premiers disciples ne connaissaient pas les journaux et leurs illustrations, souvent horribles, ni la télévision, ni les transistors. Aujourd'hui, nous sommes renseignés et troublés. Comment faire pour être à l'abri du trouble qui ternit la joie, qui angoisse, qui rend nerveux et parfois agressif? Premièrement, nous avons besoin d'une base solide, inébranlable et bien fondée pour notre existence. Il existe sur le marché une aimable figurine que l'on ne peut pas renverser. On a beau la coucher, la frapper, elle se remet toujours debout, et son sourire imperturbable semble dire « Fais-en autant ». Son secret, c'est qu'elle est lestée à la base. Et vous, sans la foi vivante et sans une relation étroite et personnelle avec Jésus-Christ, vous ne pourrez rester debout dans ce monde marqué par la peur, l'angoisse, la terreur et des problèmes écrasants. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose de plus que d'une foi superficielle. Votre expérience spirituelle doit aller bien au-delà de la petite heure hebdomadaire traditionnelle que vous passez à l'église. Vous avez besoin du Christ entier dans votre vie entière. Sa présence doit remplir chaque recoin de votre être. Elle doit influencer chaque domaine de votre vie et chaque moment de votre existence. Rien ne pourra alors vous perturber. Écoutez le témoignage du psalmiste. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Madame, pouvez-vous dire autant? Quand Jésus-Christ fera partie intégrante de votre existence, il remplacera votre peur et vos craintes par sa sérénité et sa paix. Deuxièmement, le vrai croyant doit savoir qu'il n'a pas besoin de craindre les événements que l'homme du monde non régénéré craint. Sept siècles avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a lancé cette exhortation qui est d'une actualité étonnante aujourd'hui. Ne craignez pas leurs craintes. C'est ici la vocation du véritable chrétien. Il n'a pas besoin de craindre les craintes des gens du monde, parce qu'il sait que sa vie se trouve entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Le psalmiste avait déclaré, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Pourquoi devrions-nous craindre l'avenir avec toutes ces menaces et ces incertitudes, quand nous savons que notre sort se trouve entre les mains de Dieu tout bon, tout sage et tout puissant? L'apôtre Paul, pour sa part, a écrit ces mots riches en consolation, « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Troisièmement, il faut se décider d'écouter aussi autre chose que les mauvaises nouvelles. J'ai lu quelque part que la Bible contient 366 passages où il est dit « Ne craignez pas ». Un pour chaque jour de l'année, même quand il y a une année bissextile. Dieu nous parle par et dans sa parole. Il nous parle d'une manière personnelle. Son message qu'il a renfermé dans la Bible n'est pas seulement pour le monde en général, il est aussi pour vous personnellement, aujourd'hui. Le professeur Hag se souvient comment, à une occasion, il lui a fallu quitter sa chère épouse et ses enfants pour faire une cure à l'étranger, et son cœur était tout triste. Un jour, en ouvrant sa Bible, son regard est tombé sur un passage dans la Genèse où il a lu les paroles suivantes du Seigneur. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » Son âme fut alors inondée par une vague de réconfort. Dieu lui avait parlé par sa parole à un moment où il s'était senti découragé et abattu. Dieu veut aussi vous parler, madame. Sa parole avec les nombreuses promesses divines s'avérera être le meilleur antidote contre vos craintes, votre peur et vos angoisses. En dernier lieu, ne subissons pas passivement les événements dramatiques de ces derniers temps, mais si nous ne pouvons pas les changer, servons-nous-en pour témoigner de notre foi. Tout le monde parle du chaos dans l'homme et l'auteur et dans lequel l'humanité s'enlise, apparemment sans espoir. Un professeur de gynécologie m'a demandé un jour à juste titre, « Où donc est cet espoir auquel vous, chrétiens, faites toujours allusion, si vous ne parlez que de guerre, de tremblements de terre, de famine et de cataclysmes qui doivent détruire le monde ?» N'en parlons donc pas trop, témoignons plutôt de notre vive espérance, car nous en avons une. En effet, Jésus n'a pas seulement prophétisé la faillite de ce monde matérialiste, mais il a ajouté que cette faillite même annoncerait l'imminence de sa venue comme roi, l'imminence du règne de Dieu qui sera caractérisé par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Face à cette perspective glorieuse, refusons de céder au mouvement de panique, de terreur, d'angoisse et de crainte que connaissent les nations. Suivons plutôt l'exhortation du Sauveur qui a dit « Gardez-vous d'être troublés ». Et encore, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Oui, monsieur et madame, le vrai chrétien n'attend pas la fin du monde, mais la venue du royaume de Dieu avec puissance et gloire, où nous serons à jamais réunis avec celui qui nous a aimés et qui nous a donné sa vie merveilleuse. Ma prière, c'est que vous aussi, vous soyez du nombre de ceux qui goûteront à cette félicité éternelle.